Ce matin, on va commencer avec un message. Ah, excusez-moi, ça doit être important. Oui, allô? Oui? Sérieux? Mais non. Oh, maintenant? Maintenant, genre là, je dois partir, maintenant. T'es sûr de ce que tu dis? Mais je suis devant l'église, il y a 250 personnes qui me regardent, mais est-ce que je dois vraiment partir maintenant? T'es certain? Ok, ça marche. Merci. Je suis désolé, il y a quelque chose qui vient de se passer, je dois partir. Je te laisse prêcher? Non, ok, non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer justement cette prédication par des choses qui viennent interrompre ou qui viennent modifier nos plans. On avait prévu quelque chose et tout d'un coup, bam, un coup de téléphone vient changer notre direction, une rencontre avec quelqu'un vient changer notre direction. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé à vous? Vous êtes en train de préparer une journée, vous avez tout préparé et vous avez même les bagages sur le coffre, etc. Vous partez à Disneyland Paris et là, bam, vous recevez un coup de téléphone et ça vient changer votre itinéraire. Vous n'arrivez plus à Disneyland Paris, mais dans la montagne où il fait froid. Ça nous est déjà arrivé de se retrouver en fait dans une direction, mais quelque chose vient interrompre, vient modifier nos plans. Et des fois, c'est pour le bien. J'ai envie de dire, des fois, cette interruption va être positive, mais des fois aussi, elle peut être négative. Et ça va dépendre de l'information qu'on va recevoir. Et je me rappelle de Moussa Koné qui était venu ici et dire, l'information, est-ce qu'on a la bonne information? Et ça va dépendre de l'information qu'on reçoit, est-ce que cette information va nous diriger au bon endroit? Et alors que l'on se rapproche de Noël, je vois une, deux, trois, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus qu'un. On se rapproche à grands pas de Noël. Et c'est marrant parce que, alors qu'on a fait aussi la fête de Noël avec les jeunes ce vendredi, je me dis, Noël, c'est pour beaucoup de gens, pour la plupart des gens, Noël, c'est des sapins, c'est des boules, c'est des guirlandes, c'est une course après le temps. Et pour moi, je vous le dis, c'est une période où c'est la première fois que je travaille à 100% dans l'église. Il y a encore plus de choses à l'église à Noël, mais on est pressé. Mais quelle est vraiment la direction qu'on prend? Quelle est cette direction? Qu'est-ce qui nous oriente dans cette période de Noël où tout nous pousse à consommer, tout nous pousse à acheter, tout nous pousse à détourner notre regard de ce qui est vraiment important? Toutes les informations qu'on reçoit nous détournent vraiment de notre plan. Et vous savez, le premier Noël aussi, celui qu'on a fêté, celui qui se lit dans la Bible, dans ce premier Noël aussi, certaines informations sont venues modifier les plans des personnes qui voulaient aller célébrer Noël, le vrai Noël, la naissance de Jésus. Alors qu'on est dans cette période de Noël, j'avais envie justement de vous parler de Noël et j'avais envie de vous parler de la vraie raison de Noël, de la naissance de Jésus. Alors on va prendre le texte de Matthieu 2 et je vais lire, ça sera mon texte principal et je vais vraiment y rester aujourd'hui, ça sera quasiment le seul texte que je vais utiliser. Alors on va lire Matthieu 2 et je vais lire les 12 premiers versets et ensuite on va commencer dans ce message. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Et lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Un beau texte. J'espère que pour certains, ce n'est pas la première fois que vous lisez ce texte ou que vous entendez ce texte, parce qu'il est tellement, tellement riche. Et en fait, le titre que j'ai donné justement à ce message, c'est « Une rencontre qui change nos plans ». Une rencontre qui change nos plans, une information qui change nos plans, mais une rencontre qui vient vraiment changer nos plans de vie, changer ce que nous avions prévu. Ce texte est riche. En dehors de la naissance de Jésus, en dehors des mages, en dehors des spécialistes de la loi, on voit, il est beaucoup plus riche et vous allez voir combien il concerne notre vie avec Jésus, la manière dont on va vers lui, ce qu'on pense de lui. Ce texte est très riche. Alors qu'on parle de la naissance de Jésus, vous allez voir tout ce qu'on peut en retirer. Et Matthieu, qui est l'auteur, cet évangéliste, qui a écrit cet évangile, avait une obsession dans sa tête quand il a écrit, c'est « Je désire annoncer à tous les Juifs, quand je vais écrire, que Jésus est le Messie, celui qu'ils ont attendu, celui qu'ils attendent, ce que les Juifs attendent. » Il commence son livre, il fait toute la généalogie d'Abraham jusqu'à tout le monde. Et là, Jésus, c'est bien le fils de Dieu, c'est le fils d'Adam, c'est le fils d'Abraham, etc. Il fait toute la généalogie. Et là, il va commencer son texte-ci pour expliquer, je vous promets, Jésus est le fils de Dieu, Jésus est le Messie. Il est certain. Et nous, est-ce qu'on est certain? Et nous, qu'est-ce qu'on pense de Jésus? Que pensons-nous de Jésus? Regardons de plus près ce texte. Et allons-y directement. Dans ce premier verset, Jésus naquit à Bethléem en Judée. On s'arrête là. Très simple. Deux mots. Jésus naquit. Jésus naquit. C'est comme ça qu'il commence. Mais est-ce que vous connaissez la signification, le mot Jésus? Est-ce que certains connaissent? Je pense que si je posais la question à Jean-Paul, bien sûr, il va me donner la déontologie, l'étymologie. Il va me donner toutes les significations de chaque lettre. Mais en hébreu, on dit c'est Yeshua. Et Yeshua veut dire Dieu sauve, Dieu libère. Alors voilà comment Matthieu commence cet évangile, il va dire Jésus naquit. Mais on pourrait remplacer par Jésus naquit, on pourrait dire le Dieu qui sauve naquit, le Dieu qui libère naquit. Voilà la manière dont Matthieu va commencer son évangile, commencer son deuxième chapitre, le Dieu qui libère naquit. Et il naquit à l'époque du roi Hérode. Le roi Hérode, connu aussi sur le nom du le grand Hérode, un roi qui a été redouté en fin de son règne. Il arrive à la fin de son règne, plus de 23 ans. Il est en fin de règne. Il a acquis son règne, il a acquis son trône, non sans mal, non sans cruauté. Il aura même fait tuer certains de ses fils afin d'éviter une crainte de leur part. Tuer même sa femme, Marianne. Et c'est dans cette période que Jésus, le Dieu qui sauve, va naître. Pendant la période d'un roi qui règne sur Israël avec cruauté, dont le peuple même craint. Et la suite de ce verset. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Des mages viennent rencontrer le roi des Juifs qui vient de naître. Et là, c'est vrai, on peut se dire, on a entendu, et d'ailleurs, je posais la question à Walter, j'avais mis les rois mages, il me dit « Non, ce n'est pas forcément des rois, donc j'ai aussi étudié. » Alors Tertullien, un grand aussi théologien, un historien, a dit peut-être qu'ils étaient de lignée royale, mais on ne le sait pas, mais peu importe. Mais des mages venus d'Orient, de Perse, et disent que c'est la zone qui est vers l'Irak, eux, ils vont venir pour voir ce roi des Juifs qui est né. Ils ont dit, on a vu une étoile. Et il dit, et là je dis, en effet, nous avons vu son étoile. Et là, encore ce matin que je disais, c'était son étoile. Ils n'ont pas dit, on a vu une étoile. Ils ont dit, on a vu son étoile. Comme sur le pavé là à Hollywood, il y a les étoiles, et il y a le nom de Jésus, il y a l'étoile de Jésus. Ils ont dit, on a vu son étoile, elle brillait. Et je trouve intéressant que ça soit que Dieu utilise des mages, donc des païens, des mages qui sont des astronomes, c'était des grands astronomes, des astrologues, ils regardaient les étoiles, ils prenaient des calculs, ils disaient, ah, l'étoile, elle a bougé, celle-là, elle ressemble à un dromadaire, celle-là, elle ressemble à celle du roi des Juifs. C'est intéressant quand même que dans la Bible, genre, on nous dit que ce sont des mages qui viennent d'Orient, de Perse, qui ont eu la révélation qu'un roi devait naître. Moi, je trouve quand même intéressant. Il va utiliser des païens, il va utiliser des gens mais qui sont en fait à la recherche de la vérité. Ils sont là, ils recherchent, et là, bam, il y a quelque chose qui s'allume, et ils se disent, oh, là, il y a quelque chose, là, il faut que j'y aille. Et là, ils voient la lumière, et ils disent, waouh, il faut que j'y aille. C'est comme qu'on dit, j'ai vu la lumière, je suis rentré. C'est littéralement ça, ils ont vu la lumière. Remarquons qu'ils sont à la recherche de Dieu, car ils cherchent la vérité sans même le savoir. Ils sont là, ils recherchent. Vous savez, on rencontre des gens aussi de nos jours qui sont à la recherche de toutes choses, le mysticisme, le bouddhisme, etc. Ils cherchent. Vous connaissez des gens autour de vous qui cherchent. Mais celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. La personne qui va chercher la vérité, elle va trouver la vérité. Et ces mages, c'est fou, c'est qu'ils sont à plus de 1000 kilomètres de Jérusalem, mais ils cherchent la vérité dans leur bouquin, dans leur machin d'astrologie. Ils cherchent la vérité et là, elle s'expose à eux. On y va, c'est parti, et là, ils y vont. Et je me suis aussi posé la question, je sais pas, mais Balthazar, Gaspar et Melchior, qui pareil s'appelaient comme ça, je sais pas s'ils se connaissaient avant. Je me suis posé la question, est-ce que c'était des potes et puis ils étudiaient en même temps? Peut-être même pas, peut-être qu'ils étaient de régions différentes, mais les trois cherchaient la vérité et les trois vont se retrouver à marcher dans la direction de la lumière, dans la direction de la vérité et vont arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que je me dis, ces gens qui étaient quand même assez intelligents, connus, ils avaient sûrement des bouquins, ils connaissaient beaucoup de choses, devaient savoir que le grand Hérode, qui régnait depuis plus de 20 ans, devait savoir que Hérode était le roi à cette époque-là. Il devait quand même savoir un peu qui il était. Et c'est drôle, c'est qu'ils se disent, ah, on va aller voir le roi des Juifs qui est né. Mais il est déjà là, le roi. Est-ce qu'il a des enfants? Ben non, il les a tués. C'est quoi? Ah, mais on doit y aller. Et ils vont partir de loin pour y aller. Ils vont partir de loin pour y aller. Et cette nouvelle va venir comme un tremblement à Jérusalem. On peut relire dans le verset 3, « Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » C'est fou, parce que Hérode, si fier, si autoritaire, qui a maintenu son règne, qui a été connu justement comme le grand Hérode, qui avait Rome sous son aile, qui était vraiment puissant, il va trembler. C'est quand même amusant à l'annonce de ces mages qui disent, on est venu, mais qui sont ces mages? Je leur ai dit, mais vous êtes qui vous? Mais non, parce que là, la vérité, lorsque vous entendez la vérité, il se passe quelque chose dans votre cœur. Et là, Hérode se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Jérusalem avec lui va être troublé. Parce qu'ils se disent, mais comment ça se fait? Je ne comprends pas. Hérode, il ne nous a pas annoncé une naissance. Connaissant Hérode, je ne crois pas qu'il a envie justement de donner son trône à quelqu'un d'autre. Le peuple se dit, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, nous, on n'est pas au courant, mais comment ça se fait que des mages qui viennent de plus de 1000 kilomètres soient au courant qu'il y a un roi qui va naître? Le roi des Juifs, en plus, notre peuple, nous? C'est quand même bizarre. On n'est pas au courant. Comme si tous les Américains ne savaient pas que Donald Trump allait être leur président. Ils étaient là, mais ah bon, Donald Trump est président? Ah ben, je ne savais pas. Je n'en ai pas entendu parler. C'est intéressant quand même. Et nous, qu'avons-nous pensé la première fois qu'on nous a parlé de Jésus? Qu'avons-nous pensé lorsqu'on nous a dit « Jésus, c'est le sauveur, c'est celui qui est venu à la croix, qui a payé pour tes péchés, ceux d'avant, ceux de maintenant et ceux d'après, et il te donne la vie éternelle si tu crois en lui. » Qu'est-ce qu'on a pensé le jour où on nous a dit ça? Qu'avons-nous pensé? Je me demande bien, si on se remettait chacun dans cette situation, peut-être vous étiez jeune, peut-être ça fait seulement quelques mois, peut-être ça fait quelques années, qu'avez-vous pensé lorsqu'on vous a annoncé que Jésus était le sauveur? Qu'avons-nous pensé? Avons-nous été bouleversés ou avons-nous, comme les mages, mis nos plus beaux vêtements, nous lever pour être en marche? Comme disait avant Walter, on est en marche pour rencontrer ce Jésus, pour connaître ce Jésus? Ou avons-nous plutôt dit non, 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 ou tremblé justement comme Hérode, non, moi je ne veux pas en savoir? Aujourd'hui, que pensons-nous de Jésus? Et j'ai mis quelques points. Est-ce que c'est un nom qui sonne un peu lointain dans nos têtes? Est-il un Dieu qui semble absent dans notre vie? Est-il un sujet de crainte pour nous? Est-il ce Dieu qui libère et qui sauve? Est-il notre ami ou un inconnu? Est-il le sujet de notre plus grande joie? Est-il votre raison de vivre, notre raison de vivre, ma raison de vivre? Est-il celui qui nous fait quitter notre zone de confort, comme ces rois mages qui étaient bien, je pense, dans leur pays, mais ils ont vu cette lumière, ils ont vu la vérité. Et là, ils ont dit, on doit y aller, il y a quelque chose. Je suis poussé à y aller, il y a quelque chose. Cette nouvelle, cette étoile, son étoile, me donne envie de marcher, me donne envie d'aller vers lui. Est-ce que c'était notre réaction? Est-ce que je pensais ça de Jésus lorsqu'on me l'a annoncé? Est-ce que je pensais vraiment qu'il allait pouvoir changer ma vie ou pas? Et vous savez, ce qu'on pense de quelqu'un va influencer de la manière dont on vient vers lui. Ce que je pense de mon chef, alors là maintenant j'ai plus de chef, j'ai des pasteurs, j'ai mon mentor, ce que je pense de Walter, et ça c'est vrai, va influencer la manière dont je viens vers Walter. Si je pense que c'est un bon berger qui prend soin de moi, je lui ai envoyé mon message, il m'a fait des bons commentaires, alors je vais y aller facilement, je vais dire tiens Walter, aide-moi, j'ai vraiment besoin de toi, mais je vais aller vers lui avec joie, avec simplicité, avec confiance, parce que je sais qu'il m'écoute, je sais ce que je pense de Walter va me permettre d'aller vers lui avec confiance. Ce que je pense de quelqu'un va me permettre d'aller vers lui avec une attitude qui est liée à ma pensée. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ça vous parle aussi? La façon dont on perçoit quelqu'un, la façon de ce qu'on pense d'elle va orienter notre manière d'aller vers elle. Mais sachez justement que le diable, qui rôde, et nous le disait aussi encore Victor, qui rôde, ne cherche qu'une seule chose, c'est de détourner notre pensée, la bagarre des pensées. Oh, combien on bagarre avec nos pensées. Combien on bagarre avec nos pensées. Lui cherchera toujours à vous dire, non, va pas vers Jésus, parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il va dire, tu sais pas si vraiment ce qu'il va te donner, ça va être bon pour toi, tu sais même pas s'il va vraiment te donner quelque chose. Il est pas sympa, il va pas te donner ce que tu attends. Le diable viendra toujours te dire, tu vois, t'attends, même ça fait peut-être des années que t'attends une réponse et elle vient pas, tu vois. Le diable cherchera toujours à détourner notre pensée afin qu'on n'aille pas vers Dieu avec un cœur léger, avec un cœur de joie. Et ce que je pense de Jésus va dépendre de la manière dont je le connais. En connaissant Walter, plus je le connais, après maintenant une année, je sais que je peux venir avec lui avec confiance. Je sais qu'il sera un soutien pour moi et qu'il ne sera pas là pour dire « Nico, c'était nul ce que tu as fait, tu sors ». Il ne me dira pas ça, il me dira « Ok, là tu devrais un peu te calmer, là c'était pas mal ». Pas le téléphone à l'église, éteins-le. Je ne l'avais pas éteint, je l'éteins. Il est de même pour nous, pour Jésus. Ce que je pense de lui influencera la manière dont je vais aller vers lui. De quelle manière venons-nous vers Jésus? De quelle manière venons-nous près de lui? Alors que justement notre pensée est claire, notre pensée est pure, notre pensée de Jésus est la vérité, est cette lumière qui brille, alors nous pouvons aller vers lui avec une bonne pensée, nous pouvons aller vers lui de manière pleine et libérée. Et regardons la suite du texte justement pour aller voir de quelle manière les mages qui sont allés de loin sont venus vers Jésus, sont venus vers ce roi des Juifs, ce petit qui vient de naître. On va lire les versets 4 là jusqu'à 8. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes. Hérode, une fois qu'il a entendu tout ça, il lui dit à Bethléem, donc il demande où c'est qu'il doit naître, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi Bethléem, de terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler les mages et les informa d'où précisément Jésus, le Messie, devait naître. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce moment-là, en fait, les mages sont partis. Ils sont partis donc de Perse, ils sont partis de plusieurs centaines de kilomètres. On ne sait pas exactement, je regardais ce matin encore sur le map, ils disent à peu près 1000 kilomètres en Irak selon où. Mais j'ai mis les heures, c'est 219 heures à pied sur Google Maps. Je me suis dit, ça fait pas mal, alors je ne sais pas s'ils avaient des chameaux, mais je me suis dit, les mecs ils sont partis, allez les gars, on ne fait pas un marathon, mais là on fait un peu plus. Et ils sont partis, et ils avaient cette lueur, cette vérité, et ils sont arrivés à Jérusalem. Parce que pour eux, justement, c'est là où un roi devait naître. Jérusalem, une ville connue, c'est cette ville où les rois naissent, cette ville justement choisie. Et ils arrivent là-bas. Et ils vont vers Hérode. Est-ce que tu es le roi des Juifs? Ah non, c'est pas toi. De toute façon, toi, tu es là depuis 20 ans. Mais c'est pas toi qu'on vient célébrer. Mais c'est marrant parce qu'ils arrivent quand même au mauvais endroit. Ils ne sont pas arrivés directement dans l'étable. Vous avez vu, ils arrivent à Jérusalem. C'est pas loin. On dit que c'est quelques dizaines de kilomètres. Mais c'était au mauvais endroit. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils connaissaient une partie de la vérité. Ils connaissaient en partie. La lumière était là, leur direction, leurs envies, mais ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils ne connaissaient pas vraiment la Bible. Alors ils vont arriver, ils vont dire, on vient pour un roi qui vient de naître. Et là, Hérode, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il appelle les spécialistes, justement, qui, eux, connaissent par cœur la Torah, ils connaissent par cœur l'Ancien Testament, ils pourraient dire le psaume 119 par cœur. Et ils vont dire, oui, voilà ce que dit Esaïe, voilà ce que disent les prophètes, il doit naître à Bethléem. Et là, les mages vont dire, ah merci, grâce à la révélation de la parole, grâce à la parole, notre connaissance de Jésus va grandir, comme on le disait avant. Ce qu'on pense de Jésus, par rapport à ce que je vous dis, va être une première image. Mais vous avez besoin d'aller vérifier, je n'ai pas mis ma Bible ici, mais ma Bible est là, elle est entre vos genoux. C'est dans la parole que vous allez vraiment être dirigé au bon endroit. Et justement, c'est ce qui va se passer. Donc, les mages vont recevoir l'information. Et alors maintenant, ils ont cette information complète. Ils ont l'étoile, ils ont la vérité, ils ont ce désir, cette envie, cette foi. Et là, ils ont la vérité de la parole. Ils disent, maintenant, c'est à Bethléem que tu dois aller. Donc là, ils disent, ok, c'est bon, merci, Tcho. Merci, parce qu'on n'est pas venu pour toi, de toute façon. Toi, tu as bientôt fini. Nous, on va voir celui qui va durer. On va voir celui qui donne la vie. Toi, tu ne nous intéresses pas. Peut-être tu fais peur, mais toi, tu ne nous fais pas peur. Et là, ils se dirigent et partent. Et là, pareil, ils ont la vraie adresse. C'est comme s'ils avaient un Google Maps. Ils ont l'adresse, mais ils ont l'étoile. Et ils commencent à marcher. Ils continuent. Ils ne perdent pas l'objectif. Ils ont leur mission dans les yeux. Ils gardent les yeux sur l'étoile qui brille de manière particulière. Elle est haut placée dans le ciel durant la nuit. La lumière de Jésus est placée dans les ténèbres. Jésus nous éclaire dans les ténèbres. Il dit qu'il y a une lumière qui guide nos pas. Il nous guide dans les ténèbres. Aujourd'hui, il y a la lumière. Mais dans ce monde autour de nous, on marche dans les ténèbres. Mais avec Jésus, on peut voir la lumière. Et les marches, c'est pareil. Ils marchaient, yes, je vois la lumière. Il fait nuit, mais moi, je vois la lumière et je marche. Parce que je vois Jésus dans... J'ai la vérité et la vérité, justement, m'éclaire. Ils ont une pleine assurance de venir voir quelqu'un de très important. Ils ne sont pas encore sûrs de qui c'est. Ils savent que c'est le roi des Juifs. Ils ne connaissent peut-être pas son nom, mais ils savent que c'est son étoile, que c'est quelqu'un qui va changer le cours des choses. Attirés de manière inexplicable, ils sont curieux, habités par une certitude. Comment appelons-nous ça? La certitude, être persuadé de ce qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère, la foi. Ils ont la foi. Ces mages, ils ont la foi. Ils ont la foi, ils croient. Ils croient à cette étoile, ils croient à ce qu'ils ont entendu. Ils ne savent pas, ils ont quitté. Je pense que ces gens, ils étaient en train de peut-être manger des méchouis. On ne sait même pas ce qu'ils faisaient avant. Mais là, ils ont la foi, une foi qui vient de se réveiller de nulle part. Ils ont la foi qui s'anime et ils sont là, c'est bon, cette foi, elle va me faire marcher. Je vais tout casser, je vais y aller. Ils ont cette foi et cette foi qui leur donne vraiment l'envie d'avancer. Et dans Éphésiens 3, 12, c'est le verset autre que j'utiliserai aujourd'hui, c'est dans Éphésiens 3, verset 12, « C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Mais c'est par la foi. Ils avaient la foi et justement, ils pouvaient s'approcher parce qu'ils étaient là. Je pense que c'est le roi des Juifs, mais je sais, là j'en suis sûr, maintenant on a la vérité, on peut y aller, on y va. Et ce qu'ils pensent de Jésus est clair, ils avancent donc avec assurance. Lorsque nos pensées sont claires, lorsqu'on est dans la parole, lorsque nos pensées de Jésus sont claires, alors c'est facile d'aller devant Dieu. Vous êtes d'accord? Par contre, lorsqu'on est un peu dans le péché, lorsqu'on est plutôt en train de marcher dans les ténèbres, et puis il y a la lumière, mais on est confortable un peu dans notre chemin de ténèbres, ça nous arrive. Ça nous arrive d'être confortable. Alors là, il est plus difficile de venir devant Dieu. Parce qu'on se sent pas... la lumière n'est pas là, et c'est plus difficile. Mais là, les mages, ils sont là. Nous, on a la pensée claire. On sait, on a la foi. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas ce qu'il y a à faire dans notre vie. Mais on va y aller. On va y aller parce qu'on est attiré, parce que notre foi nous donne l'envie de marcher. Lorsque nous sommes dans la lumière, alors nous pouvons nous approcher facilement de Jésus. Parce qu'on le voit. Parce qu'il est là. Parce que notre regard est guidé. Parce que nos pensées sont claires. Nos pensées sont pures. Elles sont basées sur la parole. On a eu une révélation, mais on va dans la parole pour être certain de qui est Jésus. Et on sait qu'on peut y aller avec foi, justement, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Jésus, le Dieu qui libère. On peut venir avec foi devant le Dieu qui libère, avec confiance, parce qu'on sait qu'il est. C'est tellement beau. Ainsi, c'est dans la joie. Mes amis, c'est la joie de Dieu, et je le disais encore justement vendredi, on doit prier pour ça, que la joie de Dieu nous inonde vraiment de cette nouvelle, de ce Noël. Bien sûr, encore une fois, Noël, ce n'est pas décembre. On ne sait pas si c'était décembre, on dirait plutôt c'est septembre, c'était octobre. Mais peu importe la période, Jésus est venu et c'est notre sujet de plus grande joie. Le Dieu qui sauve est venu. Et ce qui est beau, c'est que les mages, justement, sans savoir vers où ils allaient, ils avaient juste la foi, ils sont venus. Ils ont mis leurs plus beaux vêtements. Et c'est vrai, aujourd'hui, j'ai mis le costume. C'est vrai que pour les jeunes, je ne le mets pas toujours. Mais de quelle manière venons-nous devant Dieu? Avec quel habit? Avec quelle attitude? Qu'est-ce que nous avons à offrir à Dieu? Et regardez ces mages qui viennent d'Orient, qui viennent de loin. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ont juste une conviction. Ils ont juste la foi que quelque chose de grand se passe. Ils vont mettre leurs plus beaux habits. Ils vont prendre en plus des beaux cadeaux. Là, on peut parler des cadeaux. Oui, il y en a des cadeaux, mais pour qui? Mais pour qui? Et là, ils arrivent et on sait, ils ont donné de l'or, l'or qui symbolise la pureté, la royauté. Je ne vais pas vous décrire tout exactement parce qu'il y a une grosse signification, vous pourrez approfondir si vous le souhaitez. De l'encens qui représente aussi la nature de Dieu, son ministère sacerdotal, qu'il sera aussi justement un grand prêtre sacrificateur pour nous, qu'on va l'encenser, c'est son ministère, le front de sa vie pour nous. Et le myrrhe, qui est encore justement un encens qui était aussi utilisé pour des produits de beauté, mais qui dans ce contexte va aussi symboliser, tiens, on vient t'amener ce que toi tu vas nous redonner, ta vie, la souffrance qui est symbolique de ce produit qui venait embaumer les souffrances. Parce que lui vient nous embaumer aussi lorsqu'on souffre. Et là, ils viennent avec lui, en fait, on te donne tout. on te donne tout, on est venu avec le meilleur et on te donne tout. Voilà de laquelle manière ils viennent, parce qu'ils ont une révélation, parce qu'ils ont eu la foi et parce qu'ils ont eu la parole qui est venue leur donner la conviction. Oui, c'est à Bethléem, il l'a dit, ils le lisent, c'est à Bethléem que le Seigneur, le Messie doit venir. C'est fou, quoi. Et dans ce temps d'adoration, alors qu'ils sont devant Jésus, qu'ils arrivent, qu'ils se prosternent, ils disent, ils l'adorent, ils sont devant lui, ils l'adorent. Ils le prosternent, parce que c'est la seule chose qui nous vient lorsqu'on est devant Dieu, c'est la seule chose qu'on fera. Quand on sera au ciel, c'est la seule chose qu'on fera, c'est l'adorer. Les anges l'adorent, c'est le premier chant qu'ils faisaient, ils disaient, gloire, gloire au Dieu très haut, gloire à toi. C'est la seule chose qu'on fera, c'est l'adorer. Et c'est la chose qu'ils arrivent, ils viennent de loin et ils l'adorent, et ils se posent et disent, voilà, on vient t'adorer. On vient t'adorer. La présence de Dieu vient alors à ce moment modifier leur itinéraire de vie. À ce moment-là, on lit justement, puis un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Un rêve, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui va venir les interpeller. Alors qu'ils sont venus simplement avec foi, ils vont adorer Dieu. Ils se sont dit, voilà, je sais qui tu es, on vient te donner le meilleur. Alors Dieu prend soin d'eux et dit, c'est pas par là que tu dois retourner, mais vous devez aller par là. Parce que moi je vais vous guider là où vous devez aller, en dehors des trappes du méchant, en dehors de l'ennemi, en dehors du lion qui rôde. Moi je vais vous guider dans la terre promise. Moi je vais vous guider. Et c'est toujours ce qui se passe dans notre vie, lorsque nous sommes devant Dieu et dans sa présence, avec révérence, avec adoration, alors nos plans viennent être modifiés, alors notre itinéraire change. Alors Dieu peut venir agir avec son esprit et nous conduire autre part. Et ce dernier point, est-ce que justement nous avons changé ou modifié notre direction depuis que nous avons rencontré Jésus? Depuis qu'on en a entendu parler, mais qu'on a vraiment entendu parler de Jésus, est-ce que notre plan a été changé? Est-ce que notre direction a changé? Où allions-nous avant de connaître Jésus? Quelle était notre direction? Nous marchions dans les ténèbres, esclaves du péché et dirigés par nos propres désirs. Nous n'avions pas d'espérance, dirigés uniquement par nous-mêmes en vue d'accomplir nos propres victoires. Mais des victoires vouées à l'échec, une victoire qui n'amènera jamais à la vie éternelle, jamais. Vous pouvez être le président des États-Unis si vous n'êtes pas né de nouveau, si Jésus n'est pas votre Seigneur Sauveur. L'éternité n'est pas dans votre calendrier, l'éternité ne fait pas partie des cadeaux que vous avez reçus. Et c'est marrant parce que c'était le cas de Saul. Saul de Tarse, on connaît Saul de Tarse. Lui aussi qui était passionné, pas pour Jésus, mais passionné pour justement détruire l'œuvre de Jésus. Il cherchait justement à venir éliminer les plans de Jésus. Il était juif, romain, c'était le modèle parfait pour être utilisé par Dieu. Mais avant ça, il devait rencontrer Jésus. Avant ça, il devait rencontrer Jésus. Vous connaissez Saul, vous connaissez Paul plutôt. Mais vous connaissez Saul de Tarse, grand persécuteur des chrétiens. Et alors qu'il se dirigeait pour continuer de persécuter sur cette route de Damas, là, bam ! Et qu'est-ce qu'il va voir ? Qu'est-ce qu'on dit ? C'est quoi ? Une lumière aveuglante. C'est marrant parce que là encore, la lumière revient. La lumière vient nous aveugler, la vérité vient nous aveugler. Et là, bam ! Saul va être complètement transformé, changé radicalement. Son chemin va changer. Il continue d'aller à Damas, mais sa vie va être transformée. La rencontre avec Jésus va changer. Et ce n'est plus pour aller persécuter les chrétiens qu'il va partir, mais c'est pour être un des leurs. C'est pour les soutenir, c'est pour les aimer, c'est pour les encourager. Et c'est pour aller avec eux aussi dans la souffrance qu'il va les accompagner. Un changement radical. On n'a pas tous vécu ce changement radical, ce n'est pas grave. Mais le moment, et je peux le voir, je le sais aujourd'hui si je suis devant vous, c'est de nouveau, c'est que Jésus a changé clairement les plans de ma vie. Ça, je peux le dire, sinon je ne serais pas devant vous, je le sais. C'est parce que j'ai rencontré un Jésus qui m'a transformé, parce que son esprit est venu orienter mes pas jour après jour. Dans sa parole, je suis venu. Lorsque ça n'allait pas, je suis venu dans sa parole. J'ai fait confiance parce qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, regardez où il m'a mis. Il me met devant une assemblée en train de parler de lui. Seulement Dieu peut faire ça. Seulement Dieu peut faire ça. Et ça, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on sait qu'il est Dieu. Et lorsqu'on vient vers lui et on abandonne nos plans. Alors cette rencontre va bouleverser notre vie. Cette rencontre va changer complètement les plans de notre itinéraire de vie. Complètement. Et les mages, je me suis dit, mais les mages, ils auraient pu quand même arriver vers Jésus et voir ce petit enfant dans cette étable et être déçus. Je me suis dit, mais ils sont arrivés, ils ont fait 1000 km, ils viennent avec leur plus beau cadeau, puis ils voient un petit bébé dans une étable du foin. C'est quoi? On n'est pas venu d'aussi loin pour lui. Mais non. la foi était plus grande et la joie qui les a inondés. Je pense à ce moment-là, je ne sais pas, mais j'imagine que la présence de Dieu est venue les mettre. Oh, ils ne le disent pas, mais j'imagine que lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, ce petit bébé tout innocent, Dieu lui-même, Dieu qui sauve, ils ont dû être bouleversés, remplis d'une adoration, remplis d'une révérence, d'une crainte divine. Et ils se sont mis là et leur vie, d'un coup, c'était l'adoration, on l'adore, je ne peux que l'adorer. Et alors à ce moment-là, tous les doutes étaient partis. Vous savez, si on est intéressé à vivre justement pour nous, alors notre rencontre avec Jésus ne va pas changer grand-chose. Mais si on est intéressé à vivre pour Jésus, comme les mages, ils sont allés, on va tout donner, alors leur vie va vraiment changer. Mais si on cherche à vivre pour nous, si on prend Jésus, « Seigneur, donne-moi les choses, j'aimerais que tu me rendes un peu plus fort, que tu me rendes un peu plus... » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment abandonner. Si nous cherchons à le connaître, alors nous ne pouvons demeurer les mêmes. Ce n'est pas possible. Je ne connais personne qui marche avec Jésus qui est le même que ce qu'il était avant Jésus. Personne. Personne. Et si vous connaissez quelqu'un, ça veut dire qu'il faut encore qu'elle aille plus proche de Jésus. Il faut l'encourager à dire, est-ce que vraiment ta pensée sur Jésus est la bonne? Est-ce que vraiment tu le connais? Afin que tu puisses aller vers lui avec adoration comme ses mages. Et là, il y a un changement profond qui se perd. C'est impossible autrement. Vous me direz peut-être aujourd'hui, je pense que Jésus est Dieu et j'y crois même. Je viens devant lui avec révérence et plein de joie, c'est ce qu'on a fait ce matin. Alors, votre vie est en train de changer, alors votre vie change. Votre foi dirige vos pas, et non ce que vous voyez, non ce que vous ressentez, vos mal, mais votre foi que Dieu sauve, que Dieu vous libère, que Dieu guérit, que Dieu baptise, que Dieu revient. Alors c'est ça qui alimente votre marche. Alors qu'on est en trek au Brésil, un guide vous apprend que la route qui arrive devant vous est pleine de dangers. Vous ne connaissez pas ce guide, mais vous lui faites confiance et vous l'écoutez et vous changez de chemin. Et le chemin que vous prenez vous amène à bonne destination parce que vous lui avez fait confiance. Avec Jésus, nous serons toujours vainqueurs dans notre marche parce qu'il nous guidera toujours par son esprit. Il va toujours nous guider au bon endroit. Alors qu'on est près de lui, alors qu'on le connaît, alors qu'on passe du temps à l'adorer, forcément notre itinéraire sera le bon. Ça ne veut pas dire qu'il va être facile, attention, mais ça veut dire qu'il nous amènera à bonne destination. Dans cette histoire, on a vu des mages qui sont partis de loin parce qu'ils ont une première révélation. C'est comme si aujourd'hui on vous parle de Jésus, c'est une première révélation, mais ils ont dû aller dans la parole, ils ont dû entendre la parole. Vous, aujourd'hui, nous avons la parole. Vous avez entendu parler de Jésus, maintenant vous devez aller dans la parole, maintenant on doit aller dans la parole. C'est inévitable pour avoir une pensée pure sur Jésus. Alors, notre pensée de Jésus nous permettra de donner le meilleur, de donner nos ressources, de donner nos compétences. Seigneur, prends tout, j'abandonne tout, ma réputation, mes désirs, mon plaisir. Alors, nous nous abandonnons devant Dieu. Il vient prendre soin de chaque partie de notre vie, alors qu'on pose tous les projets. Seigneur, je souhaitais ça. Seigneur, tu sais, j'étais dans la tristesse. Je te laisse ça à tes pieds. Tu sais que j'étais dans le doute. Tu sais que j'étais dans la crainte. Tu sais que je suis abandonné, je suis seul. Mais je viens vers toi et j'abandonne ces choses. Je te donne le meilleur de moi, Seigneur. Ce que j'ai, 5 pains, 2 poissons, je te les donne. Parce que je sais que toi, tu vas m'orienter loin de l'ennemi, loin d'Hérode, loin du plan du malin, loin du lion qui rôde, le diable qui rôde pour vous choper. Loin. Alors que nous sommes... proche de lui, son esprit nous conduit dans le chemin de la victoire et nous sommes plus que victorieux, on le sait. Le Saint-Esprit nous donnera toujours la force pour ne plus retourner dans les anciens chemins qui nous perdent et nous éloignent de la vérité. Alors nous pouvons repartir revêtus d'une nouvelle joie, de la nouvelle naissance, je peux l'appeler comme ça. Les rois mages sont partis avec une nouvelle vision, avec un nouveau regard, avec une nouvelle direction. Aujourd'hui, est-ce que la rencontre avec Jésus a changé votre plan ? Et si ce n'est pas le cas, demandez-lui, parce qu'il le changera, parce que c'est son plaisir. Amen.